fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet. Bonjour à tous, bonjour Michel Valmet.
Bonjour François Thirion.
Bonjour à vous, chers auditeurs de Jet FM, qui êtes à l'écoute de notre émission Fantômes et Merveilles, émission sous-titrée aujourd'hui Vertige et Poissonge, ou plus exactement Portrait souvenir de Michel Ragon. Car nous allons avoir le grand plaisir de bavarder durant plusieurs émissions de suite avec un invité tout à fait bienvenu pour nous parler justement de Michel Ragon, qui fut, rappelons-le, dès le début de cette émission, un des plus grands critiques de la peinture et de l'urbanisme au XXe siècle, mais pas seulement, comme nous le verrons dans un instant, avec un invité donc présent dans ce studio, vers lequel je me tourne sans plus tarder, afin de le saluer. Bonjour Vincent Rousseau.
Bonjour, je suis très content d'être avec vous.
C'est très bien, alors bonjour Vincent Rousseau et merci d'être là. Donc, portrait souvenir de Michel Ragon. Haute figure du monde littéraire, vous allez être d'accord avec moi, et non seulement... du monde littéraire, mais du monde artistique, du siècle dernier, figure singulière comme nous les aimons à JTFM, et sur laquelle, Vincent Rousseau, vous allez nous apporter quelques lumières, car vous l'avez connu, non ? Vous l'avez rencontré ?
Alors, j'essaierai de vous apporter les lumières dont je dispose, parce que je ne suis pas, sur Michel Ragon, une encyclopédie vivante, mais il m'a beaucoup passionné, beaucoup intéressé. Parce que quand j'étais adolescent, je lisais avec beaucoup, beaucoup d'attention et d'intérêt ses critiques d'art et sa présentation de ce qu'on appelait la peinture abstraite. Et c'est ça qui m'a fasciné. Comment est-ce que l'on pouvait fréquenter ces artistes et entrer dans leurs ateliers et découvrir ce monde nouveau de la peinture ?
Oui, parce qu'il n'était pas connu à l'époque.
Alors, à l'époque, il était connu comme un critique d'art, aussi comme un historien de l'architecture, mais sa réputation de romancier, alors qu'il l'avait déjà commencé, n'était pas encore établie. On le connaissait surtout comme critique d'art.
Oui, il a été romancier plus tard, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Il a commencé une carrière de romancier dès les années 50-60, mais qui n'a pas réellement eu de succès. Même si tous ces livres sont très intéressants et on pourrait les relire.
Oui, mais beaucoup. Ça, on va en parler. Ça, oui. On a toutes nos émissions pour pouvoir parler de ça. Alors, vous l'avez rencontré ?
Oui. Alors, quand je suis arrivé au Musée des Beaux-Arts, j'ai eu tout de suite envie de le rencontrer, puis peut-être de faire quelque chose avec lui. Et il est né en 1924, et on a pensé qu'en 1984, on pouvait, à l'occasion de ses 60 ans, organiser avec lui une exposition des amis artistes qu'il avait défendus. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Moi, j'étais très jeune et je pensais à ce moment-là que 60 ans était un âge canonique. Je respectais ce vieux monsieur. Mais il ne m'en a pas voulu, surtout le contraire. Il est resté très ami et très fidèle par la suite, depuis ce moment où on a fait cette rencontre.
Alors, donc, il est... Oui, et Nantes, c'était tout à fait intéressant parce qu'il est venu à Nantes, il a vécu à Nantes, etc. Et c'est là qu'il a rencontré notamment des peintres qui l'ont vraiment initié à cette peinture abstraite,
C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est au contraire Michel Ragon qui a initié ses amis peintres à la peinture abstraite. Parce que lorsque Michel Ragon rencontre à Nantes... deux élèves de l'école des Beaux-Arts qui vont devenir ses très bons amis, James Guittet et Martin Barré, ce sont des élèves de l'école des Beaux-Arts qui ont encore une pratique assez classique. Et c'est seulement lorsque Michel Ragon quittera Nantes, arrivera à Paris et rencontrera ce monde des personnes qui s'expriment non figurativement, qu'il en parle à ses amis et qu'il leur dit « regardez ce qui se passe, regardez dans les ateliers, etc. » Donc c'est lui qui va convaincre ses amis peintres à de changer d'orientation petit à petit. Lorsqu'il les rencontre pour la première fois à Nantes, ils sont encore que des élèves de l'école des Beaux-Arts.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous prononcez, Vincent Rousseau, le terme « ami ». Et il a eu un culte de l'amitié quand même qui était très très fort. Et d'ailleurs, dans un catalogue que vous avez initié d'une certaine manière au sujet de l'exposition au Musée des Beaux-Arts dont vous parliez tout à l'heure, il y a un article de quelqu'un qui est devenu un ami qui a été très très important. François Sirian, vous ne pouvez pas nous lire un petit extrait de la confession souvenir là, que j'ai lu dans cet ouvrage qui est consacré à Michel Aragon. Confession souvenir par James Guittet.
À Nantes, un après-midi de 1943, je vis passer un personnage qui m'avait parfois intrigué. Petit, mince, habillé trop baste, sombre et fripé, chaussée terne et dure. Sa démarche dansante était caractéristique de ces personnes qui lèvent le talon à chaque pas, comme pour sauter un obstacle, puis stoppent leur élan. La secousse cadencée du corps faisait flotter en mouvement d'ailes sa chevelure châtain, inhabituellement longue et rejetée en arrière. Ce mouvement rapide d'envol et de retombée, les yeux fixés à l'horizon, donnait à ce personnage un air obstiné, intériorisé. Cette fois, je le croisais à deux pas, seul, tous les deux sur la place. Il m'aperçut et me jeta un rapide regard qui me glaça par sa fièvre et sa sauvagerie, à me sentir coupable de l'avoir regardé. De ce visage buriné par l'acné dégageait quelque chose de beethovien qui émut mon romantisme d'adolescent.
Ah oui, alors il est magnifique ce texte.
Magnifique.
Ah, magnifique. Oui. On va faire une petite pause musicale.
Vous écoutez actuellement un extrait du dernier quatuor de Beethoven que Michel Aragon apprécie beaucoup.
GTFM à l'écoute de l'émission Fantômes et Merveilles, en compagnie de François Sirian, Michel Valmer et Vincent Rousseau qui nous parle de Michel Aragon, car vous l'avez rencontré, Michel Aragon, ce grand spécialiste critique de l'art abstrait notamment.
Oui, c'était une belle aventure professionnelle et amicale. Lorsqu'on a suggéré au conservateur du musée, moi j'étais son adjoint, de faire une exposition pour fêter les 60 ans de Michel Aragon et d'inviter les artistes qu'il avait défendus, il a été très très chaleureux avec moi. Il a beaucoup aimé rencontrer, j'allais dire, un jeune homme avec qui il pouvait partager ses goûts picturaux. Parce que les relations avec Nantes n'ont pas toujours été très bonnes. À une certaine période de son existence, on l'a un peu, on l'a même beaucoup critiqué d'avoir quitté Nantes et puis surtout d'avoir défendu une peinture qui était une peinture parisienne, alors que beaucoup d'artistes voulaient rester à Nantes et défendre une forme de peinture régionale, pas forcément académique, mais une peinture qui appartenait à notre région, notre terroir. Donc c'était une forme de trahison de quitter Nantes et de défendre des artistes parisiens. Et il a reçu même un certain nombre de lettres très désagréables. Donc Michel Ragon revenait un peu sur la pointe des pieds à Nantes dans les années 80, auprès des personnes qui aimaient la peinture, et il a été accueilli par une belle génération d'amateurs qui avaient été formés à l'art abstrait, à la lecture de ces articles.
Mais oui, il y a un mot que vous employez souvent, qui est le mot « témoin de son temps ». Témoin d'un point de vue artistique, j'allais dire poétique aussi, mais romanesque, mais témoin de son temps.
Oui,
c'est un mot que vous employez souvent.
Oui, je l'emploie parce que c'est lui qui l'emploie. Il emploie ce mot-là, il dit « moi je ne suis pas un critique, je suis un témoin ». Je raconte l'histoire des gens que j'aime, de mes amis. On emploie souvent le mot « ami » quand on parle aussi de Michel Ragon. Parce qu'il ne parle pas de ce qu'il n'aime pas. Il défend ce qu'il aime. Donc c'est très différent. Ce n'est pas un vrai critique. Il ne rentre pas forcément dans des polémiques contre un certain nombre de choses. Il plaide plutôt en faveur de ceux qu'il souhaite, défendre et faire mieux connaître.
Oui, mais c'était des gens très différents, finalement, parce que de César à Chessac, ou de Dubuffet à Soulages, ou alors, il a écrit des livres, quand même, sur ce qu'on a appelé le dessin humoristique.
Oui, alors, il a eu plusieurs enthousiasmes. Dans le domaine de la peinture abstraite, c'est une chose. Mais il a aussi découvert, autour de Dubuffet, l'art, ce qu'on appelait à ce moment-là l'art brut ou l'art singulier. Il a été très, très proche de Dubuffet. Il s'est beaucoup intéressé à ces artistes qui étaient hors des chemins habituels. Il a, par exemple, connu Chessac et parlé de Chessac assez tôt. Donc c'est quelqu'un qui il a développé sa curiosité en beaucoup de domaines sans exclusive.
Alors, ce côté sans exclusive se manifeste justement dans un livre qui s'appelle « Le dessin d'humour », paru au point virgule. Il a écrit, Françoise, je vais vous demander de me lire ce texte sur les peintres, sur les peintres et dessinateurs qui ont travaillé le dessin d'humour.
Les peintres et sculpteurs modernes ont découvert, et cela avant les humoristes spécialisés, la vertu féconde de l'humour noir ou rose, de l'insolite, du saugrenu, de l'absurde. Avant le dadaïsme et le surréalisme, le grand art est avant tout sérieux. La caricature restait donc au grand art, ce que le pied beau était à Byron ou le long nez à Cyrano, une malformation monstrueuse. Lorsque naît l'art moderne, lorsque la laideur cesse d'être un défaut en soi, le grand art et la caricature se rejoignent. On en revient à la phrase clé d'André Malraux, l'art moderne est sans doute né le jour où l'idée d'art et celle de beauté se sont trouvées disjointes. Le rire lui-même n'est plus une objection à l'œuvre d'art.
Oui, merci François. On va revenir là-dessus. Moi, c'est un texte que je trouve absolument formidable. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais oui, ça montre l'intérêt que Michel Ragon peut avoir pour tous ceux qui font un pas d'écart, qui s'éloignent des choses toutes tracées. Lorsqu'on avait fêté l'anniversaire de Michel Ragon en 1984, Descloseaux était venu.
Ah, on en reparlera.
Oui, parce que vraiment, il s'était déplacé à Nantes. Et alors j'avais été très impressionné par le physique de Descloseaux, qui était quelqu'un d'assez volumineux, un grand colosse, et qui, à côté de Michel Ragon, contrastait, parce que Michel Ragon était quelqu'un de petite taille, plutôt.
On reviendra aussi là-dessus.
La semaine prochaine, au revoir, chers auditeurs de JetFM. Au revoir, Michel Valmer. Merci à tous pour la collaboration technique. Et merci à vous, Vincent Rousseau, d'être venu nous joindre pour parler de Michel Ragon. Merci aussi à Manuel Fèvre pour son formidable générique. Je vous dis donc à la semaine. semaine prochaine.
Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.